France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je suis Dominique Viss, je suis né le 30 août 1955 à Lisieux dans le Calvados et je suis contre-ténor ou haute contre, c'est comme ça vous plaît.
Tout s'exprime. Ici, par des sons, tout s'anime.
Bonjour Dominique Viss.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là, de venir nous voir. Voilà, avec cette pandémie, ça a été un petit peu compliqué et finalement, on s'est retrouvés et nous sommes très heureux de vous entendre sur France Musique. Alors, vous êtes musicien, haute contre, contre-ténor, ça, on va y venir évidemment, savoir un peu avec quel raffinement ces occurrences se distinguent. Peut-être quand même dire aux auditeurs qu'aller à un de vos concerts, c'est prendre le risque de voyager sur 5 siècles de musique, à peu près. Ça fait partie des choses possibles.
Oui, même un petit peu plus, ça peut
même
aller jusqu'à 7 siècles, voilà.
Vous êtes un connaisseur passionné de la musique ancienne, mais pas que. Muse, on pourrait le dire, pour les compositeurs contemporains, pour les metteurs en scène aussi, qui goûtent le plaisir de vous faire jouer, fondateur bâtisseur de l'ensemble Clément Jeannequin, entre autres, chanteur, biker, rocker, enfin plein de choses, et sûrement d'autres en plus que je ne connais pas. Un petit mot quand même, j'évoquais cette pandémie, mais ces derniers mois, vous les avez vécus comment et où ?
Bien, j'habite à Zellerideau, dans un endroit, dans un paradis en fait, donc ça c'est vraiment très très bien passé. Je suis vraiment très privilégié et ça m'a aussi ouvert, comme à chacun évidemment, ce sont des périodes difficiles, mais comme pour beaucoup de gens, quand on a l'esprit ouvert, en fait, ça m'a donné des horizons nouveaux et ça m'a permis de travailler sur des sujets sur lesquels je n'avais jamais eu le temps de travailler.
Par exemple ?
C'est l'année Josquin des Prés, donc il y a un disque sur Josquin qui vient de sortir. Et il se trouve que là maintenant il y a une excitation évidemment chez tous les organisateurs, chez tous les musiciens et concertistes pour faire quelque chose après ce Covid. Donc il se trouve que Josquin, on a une douzaine de concerts et donc c'est évidemment compliqué à organiser parce que personne ne sait de quoi le lendemain sera fait. Donc j'ai dû fabriquer sur 12 concerts 10 programmes différents selon les personnes et j'ai pu approfondir plus que d'habitude ce programme et la façon de l'appréhender. Et aussi par rapport à l'édition, c'est le hasard aussi, mais il se trouve qu'on m'a demandé d'éditer une grande partie du travail que j'ai fait depuis 40 ans en tant que transcripteur. Donc un nouvel éditeur qui s'appelle Albus, qui est dirigé par François Joubert-Caillé, qui dirige La Quarante. Donc, quelle idée, je pense, ça lui est venu aussi pendant le confinement, de faire une grande maison d'édition aussi bien sonore que papier, que multimédia. Voilà. Donc, ça, j'ai été bien occupé.
Et dans un côté un peu reclus, comme ça, après une vie très mouvementée où on bouge tout le temps beaucoup, vous goûtez, vous, ces moments un petit peu de jachère ?
Oui, je m'y suis efforcé parce qu'effectivement, j'ai eu une vie fantastique, tumultueuse, magnifique, voilà. Et on prend vite des habitudes, même par rapport au travail. On se lève, bon, j'ai eu des enfants et tout ça, mais quand même, systématiquement, on a tendance à se lever, à se mettre devant l'ordinateur, à travailler, à transcrire. Et ce n'est que depuis cette période difficile que j'ai pu apprécier le fait d'avoir le temps, le matin, de ne rien faire. Et je suis resté dans mon lit plus que je ne suis jamais resté avant. Et juste le plaisir du soleil, le fait d'être enfermé. Là où j'habite, je me répète, mais c'est un paradis. Il y a des écureuils, il y a des oiseaux. C'est, voilà, ça paraît simple et un peu stupide, mais j'ai appris à vivre un peu autrement.
Près de la nature.
Voilà. Je suis né dans la nature, voilà. Je suis né dans la campagne, au cul des vaches, comme on dit, dans ma Normandie natale. Donc la nature a toujours été présente et aussi transmise par l'amour de la nature de mes parents.
Cette nature, Lisieux, le Calvados, c'était comment cette petite enfance, Dominique Vis?
Très privilégié. Je viens d'une famille très modeste, mais il se trouve que je suis le premier enfant des 23 cousins, voilà, des deux côtés des familles. Et je m'appelle Dominique, qui veut dire Dieu, donc j'ai été élevé comme un enfant Dieu par mes grands-parents et mes parents qui n'avaient pas grand-chose, mais qui m'ont tout donné en amour.
Ah oui, merveilleux, donc, vous êtes le premier des deux côtés.
Oui, c'est vrai. Et j'étais quand même un enfant spécialement sage. Donc en fait, on me laissait faire tout ce que je voulais.
Et il y a une fratrie derrière vous ?
Oui, j'ai un frère et une sœur. Mon frère qui est bijoutier, ma sœur qui fait de la musique, qui est professeur de flûte.
Ah oui, donc ce virus musical, il est arrivé comment, que faisaient vos parents et comment est-ce que la musique était là ou pas, a été découverte ou pas ?
Ben, la musique était là, oui. Et mon père était menuisier, ma maman était femme de ménage. Mais mon papa, dans son adolescence, était trompettiste et accordéoniste, il jouait dans les bals. Et ma maman chantait à la messe. Donc j'étais bercé quand même par la musique. Et le hasard fait que dans le village où j'étais, tout petit village en Normandie, où j'ai grandi, un prêtre est arrivé, un jeune prêtre, et il n'y avait pas d'organiste. Et comme ma maman était assidue à l'église, et il a demandé à ma maman si, comme il n'y avait que deux garçons de mon âge dans le village, et que l'autre n'était pas question, il a demandé à ma maman si par hasard il pouvait m'apprendre, parce qu'il était aussi organiste, s'il pouvait m'apprendre l'harmonium, parce qu'il n'y avait pas d'orgue, l'harmonium pour tenir l'harmonium à l'église. Ce qui a été le cas, et voilà, c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier, en fait.
Avec les soufflets pour les pieds?
Oui. Et le bâton de colle et pour réparer les touches qui sautent et les, et les doigts gelés l'hiver parce qu'il n'y a pas de chauffage.
Ouais. Donc une famille très pratiquante, ça c'est surtout votre mère ou votre père aussi hein?
Non, uniquement ma mère. Mon père n'était pas pratiquant. Deux personnes qui avaient des idées totalement différentes mais qui s'entendaient parfaitement bien. Ce qui m'a servi de leçon.
De cette Normandie et de cette petite enfance, donc, vous allez garder un rapport à la nature assez fort. C'était quoi aussi? C'était une forme de liberté dans ce petit village? Vous étiez sage, vous nous le disiez. Ça veut dire que vous aviez tout loisir aussi de pouvoir crapahuter
Oui, c'était la totale liberté, comme vous dites, on pouvait crapahuter. Mes parents avaient confiance, j'avais juste un copain, mon voisin, c'était la même chose. Et on était beaucoup aimés par tous les gens du village, voilà. Il se trouve que mon papa avait aussi une responsabilité à la mairie, qu'en même temps, ma maman était très proche de l'église. Donc en fait, on chapeautait tout le village par ce biais-là. Et donc, comme je travaille bien à l'école aussi, donc on ne m'embêtait pas du tout avec... Donc même tout le temps libre était dévoué à nos fantaisies avec mon copain, à crapahuter, à jouer, à s'amuser et à profiter de la nature. Mais je ne l'ai découvert, ce goût de la nature, je ne l'ai redécouvert qu'en fait il y a peu de temps. Parce que j'ai aussi avec la campagne, il y a des choses plus tard dans mon adolescence que j'ai trouvé un peu difficiles dans le rapport entre les personnes. Mmh. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai eu un peu de mal à m'habituer parce que là le choc a été grand. Mais j'ai trouvé que les esprits étaient plus ouverts et plus faciles à travailler, plus tolérants. Et je trouvais que la campagne, ça a beaucoup changé. Hein. Je parle là d'il y a 40-50 ans, que les esprits étaient quand même fermés et que se colportaient des histoires entre paysans, entre personnes qui on ne savait pas d'où elles venaient, mais elles étaient toujours là. Et il y avait une petite air, pour moi, à mon goût, un petit peu malsain, que j'ai effacé pendant des années quand je suis arrivé à la capitale, à Paris. Voilà. Et mais maintenant, effectivement, les arbres. Mon père était menuisier, donc j'ai toujours senti l'odeur du bois, l'odeur des scieries. Ça me manque. Mmh. Et là, je suis heureux de l'avoir retrouvé. Voilà, donne une presque campagne à Azay le Rideau.
Est-ce que vous étiez aux côtés de votre père? Parce que quand même, on adore aussi, quand on est enfant, fabriquer, travailler le bois, construire. Ça, c'est des choses qui vous plaisaient quand vous étiez enfant?
Ah oui, bah ça, je l'ai gardé, hein, je bricole beaucoup, mais malheureusement et heureusement d'ailleurs, parce que c'est menuisier, c'est un métier ébéniste, ce sont des métiers dangereux. Il y a des machines qui peuvent être très dangereuses. Donc mon père a toujours protégé. Donc en fait, il m'interdisait, j'avais juste droit à une planche, des petits clous et un marteau, quoi. Tout le reste m'était totalement interdit. Et je pense qu'il a eu raison, parce que lui-même, en étant très... En faisant très attention, bon, comme beaucoup de menuisiers, il est mort avec des doigts en moins, quoi. Mais j'en ai gardé surtout l'odeur. C'est la chose que je garde le plus de la campagne, de la nature, de la Normandie. Ce sont à la fois les odeurs de la nature et l'odeur de l'atelier de mon papa.
Votre mère, elle chantait à l'église, mais est-ce qu'elle chantait aussi à la maison? Est-ce qu'il y avait, quand vos frères et sœurs grandissent avec vous, est-ce qu'il y avait aussi, dans la maison même, votre père qui continuait à prendre ses instruments et la musique à la maison?
Non, mon papa jouait de temps en temps l'accordéon, jusqu'à ce qu'il perde ses doigts, justement. Mais ma maman ne chantait qu'à l'église. Et en plus, nous étions et nous sommes toujours une famille un peu fermée. Voilà, une vraie famille de la campagne, donc
taiseux.
Avec une grande timidité. Donc je me souviens même les mariages, même après, quand j'ai commencé à chanter, pour moi il était totalement impossible que je chante devant un membre de ma famille. Et d'ailleurs, même après, quand j'ai commencé à travailler, même je me souviens l'Opéra de Paris, quand ma maman est venue pour la première fois voir mon premier opéra à Garnier, j'ai été pétrifié uniquement parce qu'il y avait ma maman dans l'audience.
Votre père, lui, vous a vu chanter aussi,
oui,
sur les scènes?
Oui, mais cette première fois aussi, pour l'anecdote, comme il sortait très rarement de chez lui, il est venu, en fait, il a pris une paire de chaussures qui appartenait à mon frère, qui avait 3 pointures de moins, et en fait, il a souffert pendant tout le temps de l'opéra.
Les gens qui vous connaissent aujourd'hui vous connaissent aussi pour être sur scène un trublion, un audacieux, une forme de fantaisie que vous portez sur scène, mais pas que d'ailleurs. Est-ce que par exemple, cette fantaisie à l'adolescence, elle était compliquée dans ce petit village, alors que ce petit village était très protecteur quand on est enfant? Est-ce que quand on grandit, c'est plus difficile?
Oui, ça a été vraiment difficile pour moi. Mais la scène m'a libéré énormément. On peut parler même de thérapie. J'étais vraiment quelqu'un de très, très renfermé. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais le premier des 23 enfants et je jouais seul. Ma sœur a 4 ans de moins, voilà. Et puis bon, ça allait bien à l'école, j'avais 2 ans d'avance. Donc en fait, je n'ai pas connu mon frère et ma sœur. Et je suis resté comme ça, très enfermé. Et les premières grandes expériences de musique, évidemment, c'est surtout par rapport à la polyphonie. Le chant choral, mais on reste quand même fermé sur soi-même. On chante avec les autres, mais on ne s'exprime pas théâtralement, en fait. Et donc c'est l'opéra qui m'a vraiment libéré de cet enfermement sur moi-même. Et surtout, je n'avais pas d'où je venais. Tout ce monde qui s'est ouvert d'un seul coup devant moi était fascinant, mais totalement incompréhensible. Et je ne comprenais pas ce que j'y faisais. Et pourquoi, les premiers opéras que j'ai faits, pourquoi j'avais du succès. Je comprenais pas, je me sentais nul. J'avais les premiers opéras qu'on apprend, même pour la mémoire, c'est difficile tout ça. Ce qui passe, on ne sait pas quoi. Évidemment, on n'a pas de réponse. Comment faire fonctionner la musique par rapport au public en face. Et ça, fort heureusement, fonctionnait tout seul et je ne comprenais pas. Et j'avais une tendance, c'est de me regarder quand j'étais en scène, dans le travail, je veux dire, en répétition. Et dès qu'on était en scène, c'est pareil, je me regardais. Et en plus, j'avais le sentiment que le metteur en scène me regardait, que le technicien me regardait et que tout le monde me jugeait. Et en fait, il m'a fallu vraiment des années et des années pour libérer totalement ce... le démon que j'ai en moi.
Et il y avait dans ces moments-là des confidents, enfin des gens qui vous ont aidé ou des maîtres pour petit à petit le dompter, ce fameux monstre.
Non, ça s'est fait
tout seul.
Ça s'est fait tout seul. Évidemment, toute cette période des années 80-90 où on était tous logés à la même enseigne. Tous les William Christie, Jacobs, Malgoire, en fait, ils étaient un petit peu plus âgés que moi, mais on faisait tous nos armes ensemble. Donc c'était collégial, donc on apprenait. Personne d'entre nous n'était vraiment chef, personne d'entre nous n'était vraiment musicologue, enfin sauf William Christie, René Jacobs. Mais donc on faisait tous nos armes ensemble. Donc on a appris et j'ai appris très vite, d'où le fait que j'ai toujours été énormément respecté par rapport aux gens qui me dirigeaient, aussi bien en scène que dans la fosse ou ailleurs. J'ai appris très vite que c'était égalitaire. Il y a une hiérarchie, sinon ça ne fonctionne pas. Mais par contre, au niveau du sentiment et au niveau de, enfin, il faut que les gens qui sont en face, c'est tout bête, mais même à René Jacobs ou à Anne Christie, de temps en temps, quand je lui disais, oui, ce soir, t'as bien dirigé. En fait, ils étaient super heureux. Alors qu'on peut penser qu'en général, quand on dit ça, la personne en face le prend mal. Et c'est tout le contraire. On a besoin d'être rassuré dans ce qu'on fait, où qu'on soit. Donc, on s'est construit les uns avec les autres, tout simplement.
Et ça, ça crée une forme de confiance, alors?
Ah, total, oui. Ça, c'est magnifique dans le sens où, si vous avez le respect des gens qui sont en face de vous, les gens, évidemment, vous respectent. Et surtout, s'il y a des faiblesses d'un côté ou de l'autre, on le sait, on ne va pas commencer à le dire. Moi, jamais j'ai été accroché par un chef, me dire « Non, t'as pas fait ça, non, c'était pas bien, t'étais pas en place. » Jamais, s'il y a une petite erreur ou une petite faiblesse, on l'effaçait. Quand on est suffisamment intelligent pour le savoir, ou même si moi j'ai eu des erreurs, ben j'allais m'excuser, et puis voilà. Mais ce qui fait que ça fonctionne très facilement, et que les gens qui vous dirigent ont une écoute bien supérieure à ce que c'est habituellement quand on est, malheureusement avec le temps maintenant, obligé d'aller vite, donc on est obligé de suivre le chef, alors que nous on était très privilégiés dans le sens où on avait tout le temps de fabriquer des spectacles.
France Musique, les grands entretiens de Dominique Wyss.
Je reviens un instant, vous disiez, j'ai pas connu mon frère, ma sœur, c'est parce que vous étiez très en avance, vous êtes parti tôt de la maison, c'est ça?
Bah oui, absolument, comme j'habitais à la campagne, tout simplement, je suis rentré à l'internat, au collège, à 10 ans.
Ah oui.
Donc, là,
vous étiez où alors à l'internat?
Au Mel-sur-Sarthe, en Normandie, dans l'Orne. Et je rentrais les week-ends, et en internat à l'époque, on sortait le samedi après-midi, et on rentrait le dimanche soir. Et quand je rentrais le samedi après-midi, c'était pour aller à l'harmonium. Et je jouais la messe le dimanche matin. Et je commençais à pleurer au dessert le dimanche midi, ma maman me le disait. Parce que le dimanche soir, il fallait que je rentre. Donc les week-ends étaient très courts. Et donc, voilà, profiter de la famille n'a pas été idéal. à la fois, ça a été pour moi très bénéfique dans le sens où l'internat, j'ai fait 6 ans d'internat, ça m'a justement obligé à m'ouvrir parce que comme j'étais très fermé, et là j'étais obligé de partager avec mes copains et en fait avec le retour du temps, j'ai trouvé ça très bénéfique.
Alors l'harmonium, ça c'est quelque chose que vous allez pousser un peu comme étude, parce qu'on vous connaît beaucoup comme chanteur, comme chef d'ensemble, mais on connaît moins aussi ce versant instrumentiste du musicien que vous êtes, Dominique Wyss.
Ah ben, j'ai commencé par être voilà, instrumentiste, donc j'ai joué l'harmonium dans mon village. J'ai toujours eu de la chance dans ma vie, hein, c'est vrai, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc j'ai sur le chemin, même au fin fond de la Normandie, croisé des gens comme une premier professeur d'orgue, qui s'appelait Marthe Braquemont. Voilà, qui était de la famille de Louis Vierne. Donc, elle m'a pris sous son aile. Donc, j'ai travaillé tout de suite le grand orgue avec elle. Et par la suite, quand mes parents ont déménagé pour aller à Alençon, une grande ville, ils ont déménagé. Mon père a quitté son métier pour qu'on puisse avoir des études et pour qu'on puisse faire de la musique. En fait, d'artisan, il est redevenu ouvrier pour nous aider. Voilà. Mais donc, voilà. Et là, j'ai rencontré un professeur qui s'appelait Francine Guiberteau, qui était, elle, de la famille d'Olivier Messiaen. Donc c'est le hasard, mais ces gens-là m'ont ouvert l'esprit de façon musicale par l'instrument, par le grand orgue. Et j'ai été organiste suppléant aux côtés d'elle à l'église de Montsort à Alençon. Et ce qui était génial, c'est que c'était des personnes qui étaient vraiment très cultivées et qui à la fois me faisaient jouer de la musique ancienne, à la fois la musique très contemporaine. Et elle avait 7 prix de Paris, c'est le hasard. Mais donc, en même temps qu'on travaillait la technique, je travaillais l'école Marcel Dupré, voilà, les legatos absolus. En même temps, elle faisait jouer du Messiaen. Et en même temps, quand on jouait du Bach, je jouais les sonates en trio de Bach, tout ça. Avant le cours, on chiffrait la musique. Pas comme une basse continue, mais on décodait la musique. Elle m'apprenait comment c'était composé, parce qu'elle avait un prix de fugue, elle m'expliquait les fugues. Donc en fait, très tôt, j'ai appris à déstructurer la musique simplement pour la comprendre. Ce qui m'a, sur le moment, j'ai pas fait attention, mais ce qui m'a beaucoup servi. Et puis après, bon, elle a commencé à vouloir que j'étudie vraiment l'harmonie. Et là, le traité, je sais plus comment il s'appelle, ça c'était vraiment trop ardu. Là, ça m'a un petit peu dégoûté de l'harmonie.
Et alors, ce travail à l'instrument, où tout le corps, là, pour le coup, est véritablement concerné, il y a les pieds, les mains, les jeux qu'on tire, est-ce que ça, pour l'adolescent que vous êtes à l'époque, alors, c'est quand même une première manière aussi de se sortir de soi-même, de s'exprimer?
Oui, absolument.
On ne peut pas faire de l'orgue à moitié, on ne peut pas faire ça discrètement.
Non, absolument, et c'est vraiment jouissif. Le simple fait d'être la nuit, parce que quand on a les clés de l'orgue, on y va quand on veut, d'être tout seul dans une église avec un grand orgue la nuit, vous tirez les jeux à fond, et vous faites juste un accord, et là, vous avez le frisson. Quoi. C'est un instrument qui est tellement riche de façon sonore, et en plus c'est un instrument que vous devez entretenir. Et il faut apprendre à l'appréhender. Il y a aussi le fait qu'on joue quand même avec 2 mains et 2 pieds. Allant jusqu'à, moi je me souviens qu'une pièce que cette Francine Guiberteau m'a fait jouer, je sais plus le compositeur, mais c'était à 6 voix. Donc pour la cervelle, ça devient compliqué. Donc ça vous emmène dans des chemins que je pense un autre instrument peut pas trop vous emmener. Mais pour moi, le premier choc, la première fascination, ça a été le son.
Thank you.
Olivier Latry sur les grandes orgues de Notre-Dame de Paris. Ainsi se referme le premier épisode des Grands Entretiens avec Dominique Wyss. Réalisation Lionel Quentin, prise de son Jason Taus, mixage Benjamin Vignal, attaché de production Flora Sternadel. Demain, à la même heure, deuxième épisode de ce portrait. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.